bras sont des cisailles, des pales d'hélicoptères qui se désaxeraient, s'affranchiraient de leur rotor et deviendraient des bras qui décapitent, guidés par l'écriture heurtée du chorégraphe. Technique surnaturelle de la danseuse étoile. Quelque chose d'escarpé, d'étranger à notre langue, quelque chose qui procède d'une violence invisible, donne lieu à l'impérieuse grandeur de l'héroïne. Elle devient vision. Elle crée le ciel, la terre, la roche, l'espace mythologique. Ces mouvements sidérants sont des mots, des phrases, des insultes, des supplications, gerbes de gestes qui éclatent, vives structures corporelles, mouvements profonds qui creusent l'espace comme des cuillères, grande clarté dans leur envergure de déraison. Bonjour Marie-Agnès Gillot.
Bonjour.
Est-ce que vous vous êtes reconnue dans cette description de vos mouvements par l'écrivain Éric Reinhart dans Cendrillon qui vient tout juste de paraître en folio?
Non, c'est
Il a raison, Reinhart.
Oui, il a raison, mais c'est mieux écrit que ce que je fais.
Vous, plus prosaïquement, vous dites « j'ai des bras de singe et des jambes de sauterelle ».
Voilà.
Vous exagérez un peu, quand même.
Bon, c'est un peu la vérité, il faut mieux me voir debout qu'assise, quoi. Je baisse d'un ton quand je suis assise.
Bon, bienvenue à vous dans ce matin du samedi. Vous êtes danseuse étoile et chorégraphe. Et la scène musicale vous a donné carte blanche jusqu'en juin. Carte blanche, sauf que vous avez proposé une palette multicolore pour cette carte blanche. La première a eu lieu le 14 octobre dernier. La deuxième aura lieu dans quelques jours, le 22 novembre. Marie-Agnès Gillot, est-ce que cette programmation que vous avez réalisée, dont je vais dire quelques mots, a été faite à votre image? Je lis. C'est un récital, par exemple, hommage à la culture libanaise en tête-à-tête avec le pianiste Simon Graichi, l'improvisation égyptienne et soudanaise mise en regard avec la direction d'orchestre très chorégraphique de Jean-Christophe Spinozzi, la voix délicieusement rauque d'Arthur H associée au monde de la boxe de Souleymane Sissoko, une soirée au profit des Restos du Cœur, sans oublier la recréation de deux grandes pièces contemporaines du répertoire, Black Over Red, A Short Dialogue with Rothko de Caroline Carlson et Le Jeune Homme et la Mort, ballet iconique de Roland Petit. Je les ai pas tous donnés, j'en ai donné que quelques-uns présentés par la scène musicale. Est-ce que donc c'est à votre image?
Oui, je pense que c'est à mon image. C'est très éclectique. C'est un parcours sur la liberté de ce que j'ai pu faire dans ma carrière. Et puis aussi, je laisse la place aux autres, surtout. En fait, j'aime bien collaborer. Moi, j'aime bien ouvrir l'espace à des personnes que j'admire. Donc voilà, je les invite en fait.
C'était le cas par exemple le 14 octobre, alors c'est des personnes que vous admirez mais aussi des amis,
oui.
Puisque vous avez invité des chanteurs,
oui.
Et c'était au profit donc des Restaurants du Cœur, c'est
exactement,
ça. Qui avait-il, oui, sur scène?
Carla
Bruni.
Dani, Carla Bruni, pardon.
Oui, parce que c'est vos amis, mais c'est pas forcément les amis de toutes nos auditrices et nos auditeurs.
Carla, Dani, Christophe Willem, Romain, dans l'ordre Jennifer, Amel Bent, Slimane, et puis les surprises, MC Solar et Florent Pagny.
Vous, ouais. À chaque fois, vous dansez?
En général, ils chantent tous 3-4 titres et moi, j'en interprète une.
Comment vous avez pensé toutes ces... Il y en a 6 hein, autour des soirées.
Ouais.
Comment les avez-vous pensées? Qu'est-ce que vous avez eu envie de faire, outre bien sûr inviter des amis parfois, et puis collaborer, comme vous le disiez, et avoir cette liberté? Mais est-ce qu'il y a un ordre, par exemple, jusqu'en juin, particulier, une sorte d'histoire que vous déroulez?
Non, là, c'est vrai que cette première soirée, c'était un parcours autobiographique, mais après les prochaines... Donc la prochaine, c'est Paris-Beyrouth. C'est un pays que j'adore. Ce sont des gens que j'admire, que je fabule. J'adore leur façon de penser. Les Libanais, j'adore leur... Et c'est vrai que, en fait, je me suis rendu compte que les grands virtuoses que j'aimais, ils étaient Libanais. Donc j'étais là, autant faire une soirée Paris-Beyrouth.
Avec une chorégraphe libanaise.
Voilà, Anna Dacano. C'est assez sublime. En fait, j'ai une robe qui fait toute la scène.
Une robe qui fait toute la scène?
Ouais.
Sur la scène de la scène musicale.
Sur la scène musicale, ouais. Donc vous allez voir l'ampleur.
Et on peut bouger dans une robe qui fait toute une scène?
Ah ben, je vous dis pas comment je commence.
Si, je sais comment vous commencez.
Upside down.
Upside down. La tête en bas et les jambes en l'air.
On voit que mes jambes au départ. C'est assez drôle comme image.
Qu'est-ce que c'est que cette idée, cette drôle d'idée?
Ben, c'est une pièce que j'avais découverte en vidéo. Et j'avais vraiment envie de la danser. Après, on l'a remaniée, on l'a recréée. Et puis aussi, ouais, voilà, forcément, avec une robe qui fait 40 mètres, voilà. Tous les soirs, c'est différent, donc voilà.
C'est un peu des défis que vous vous donnez, parce que vous êtes quelqu'un qui relève pas mal de défis, Marie-Agnès Gillot.
J'aime bien les défis, mais en fait, c'est juste, j'aime bien me donner, en fait, c'est tout, quoi.
C'est pas, votre plaisir, à vous.
C'est mon plaisir, en fait, j'estime qu'un artiste, s'il se donne pas, il doit pas être à ce niveau-là, quoi.
C'est comme ça que vous avez grandi.
C'est comme ça que j'ai grandi.
Et alors après on passe en mars, on saute les mois hivernaux et on passe au mois de mars avec deux reprises, Le jeune homme et la mort, véritable chef-d'œuvre, et puis une pièce inspirée de Rothko, de Caroline Carlson. Ouais. Vous pouvez nous parler de Rothko et de Caroline Carlson?
Ben en fait cette pièce, elle, c'est son dernier solo qu'elle s'est créé pour elle en fait. Et elle me l'a livré. Et donc, on a aussi retravaillé, on a aussi rajouté des scènes et des choses plus personnelles. Mais je l'ai dansé à la Menil Collection à Houston, justement, où sont les Rothko. Et c'était un grand, grand succès. Et donc, j'avais envie de reprendre cette pièce en France parce que je l'ai pas encore donnée en France. Donc, je me suis dit, c'est quand même sympa de pouvoir montrer ce travail et puis de pouvoir aussi montrer le dernier travail de Caroline, puisque quand même je suis une danseuse qui a été nommée sur Caroline Carlson.
Donc avec Signe.
Avec Signe, donc voilà, c'est une continuité pour moi.
Signe qui montrait aussi des tableaux d'artistes, hein, des,
oui,
des peintures.
D'Olivier Dubray.
D'Olivier Dubray, tout à fait. Comme Rothko, avec ses grandes toiles d'aplats de couleurs. Vous-même, vous êtes une grande amatrice, non seulement une amatrice, mais vous pratiquez depuis toute petite le dessin. Vous aimez beaucoup la peinture, grâce à votre grand-père, je crois, Marie-Agnès Gillot. Et c'est d'ailleurs votre grand-père qui vous a aussi appris à apprivoiser les oiseaux, à vous souvenir du nom des arbres. Donc on parlera peut-être de ce grand-père un peu plus tard. Mais juste un mot sur la peinture, sur les couleurs. Je vous disais que cette carte blanche était en fait une palette multicolore sur Rothko et la façon dont on se déploie sur scène, dont les mouvements prennent forme, particulièrement quand on a un univers pictural. Comment ça se marie tout ça?
Si je pense Rothko, comme question, c'est difficile. Déjà, c'est une étude, c'est-à-dire qu'en général, les artistes, on est très avisés, c'est-à-dire qu'on se renseigne sur les choses avant de commencer une pièce. J'attaque pas Rothko sans avoir vu un Rothko, quoi. Et je me rappelle très bien aussi, je sais pas si vous avez vu cette chapelle à Houston, où vous essayez, en fait, c'est
j'ai
que du noir.
J'ai pas eu cette chance.
Et puis, en fait, vous attendez quelques instants et, en fait, les couleurs apparaissent, en fait. Il faut se concentrer et l'œil change. Et là, vous voyez, en fait, dans le noir, qu'il y a une couleur derrière. Et je pense qu'en fait, avec les chorégraphes, c'est comme ça que je travaille, en fait. On commence brut de décoffrage et puis après on peaufine les choses, on va disséquer, on va à l'intérieur des choses, oui.
Vous disiez, vous rappeliez que vous avez été nommée danseuse étoile à l'issue d'une représentation de Signe. C'est rare qu'une danseuse de l'Opéra de Paris soit nommée étoile sur un spectacle contemporain. Spectacle de Caroline Carlson, musique de René Aubry, on en écoute un extrait.
Merci.
Extrait du dernier tableau, Marie-Agnès Gillot, de ce spectacle Signe. Vous vous souvenez de ce que vous dansiez, des mouvements que vous faisiez sur
oui,
ce qu'on entend là?
Oui, bien sûr, en fait. On a les mémoires physiques sur la musique, en fait. Je pourrais pas...
Faut les mettre en mots, ce qui est encore plus difficile.
Oui, alors je peux pas danser si j'entends pas le son, en fait. Je me souviens de toutes les chorégraphies par la musique, en fait. J'ai une mémoire très vivace, en fait. Je me souviens de ce que j'ai dansé toujours, mais il faut me mettre la musique pour que je parte.
Alors, comme on n'a pas l'image, là, donc on a le son, est-ce que vous arriveriez à mettre en mots quelques-uns des mouvements que vous faisiez?
Là, c'est un peu le tableau du yin et yang, c'est le blanc et le noir. Et Kader est en noir, moi je suis en blanc. Kader Belarbi, c'est que des mouvements très... vraiment très puissant, un peu comme un moine bouddhiste. C'est que des marches. Ça fait très mal aux cuisses parce qu'on reste plié. Je rigole. Mais voilà. Je me rappelle de la souffrance, en fait.
Puisque vous parlez de souffrance, il se trouve que dans l'une des soirées que vous prévoyez, vous allez endurer les coups d'un boxeur. puisque vous avez dansé sur un
adoré
clip.
Adoré les coups.
En plus, puisque vous avez dansé donc sur un clip d'une chanson de Arthur Ashe et que vous prévoyez une soirée concert autour d'Arthur Ashe, son clip. C'était, et sa chanson, c'était La boxeuse amoureuse. Sur le clip, vous dansiez avec l'acteur Roche Dizem.
Oui.
Mais là, donc, non, vous allez endurer les coups d'un véritable boxeur, champion de France en plus, Souleymane Sissoko.
Ouais, je crois qu'il est même champion d'Europe maintenant. Hein. Mais j'admire en fait ces athlètes, j'adore leur manteau quoi. En fait, c'est juste là, j'en ai rencontré trois de plus. C'est incroyable comme les danseurs et les combattants, en fait, on a cet esprit qui nous révèle et qui nous rapproche en fait, et en plus ils sont tous des bons gars quoi, comme on dit, c'est vraiment des doux en fait au départ, mais c'est des fighters quoi, et une danseuse c'est une fightrice quoi, c'est
vous allez au combat,
un mental de malade quoi,
vous allez au combat,
ouais, on va au combat
à chaque fois
que
vous montez,
ouais,
sur scène
faut mourir sur scène quoi.
Regardez-la danser quand elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse. Sur ses gants dorés, des traces de sang, de larmes et de sueur. Et de sang, et de sang. Elle esquive les coups. La boxeuse amoureuse. Elle absorbe tout. La boxeuse amoureuse.
Marie-Agnès Gillot, elle esquive les coups, elle absorbe tout, et il l'a écrite pour vous, cette chanson, Arthur Ashe. Comment
non.
ça s'est passé
C'est
la rencontre.
Une chanson écrite pour sa maman. Moi, je l'ai juste interprétée.
C'est vous qui avez chorégraphié ce clip?
Oui, j'ai chorégraphié, mais hein. J'étais sous la direction de Léonore, son épouse. Voilà, donc c'était des choses très très chiadées. Hein. C'était pas. Ouais, moi j'ai juste interprété et chorégraphié.
Et vous esquivez les coups, vous absorbez tout, vous aussi. C'est pas écrit pour vous, mais
bah,
vous
ça
auriez
convient
pu,
bien,
ça
effectivement,
vous convient bien.
Ça me convient bien comme chanson, ouais. Ouais. Enfin, sauf que moi j'ai pas souvent esquivé les coups. Hein. Je me les souris moi, en général. Mais bon, ça va, j'ai une capacité de résistance assez hors norme et une capacité de récupération incroyable, donc ça va.
Marie-Agnès Gillot, vous avez pris votre retraite de l'Opéra de Paris il y a un an et demi. Ça a été un peu éprouvant de faire ses adieux à l'Opéra. Vous aviez passé 30 ans, et même un peu plus, 33 ans. Ça va mieux aujourd'hui, vous vous faites à votre nouvelle vie?
Oui, ça va mieux, oui. J'ai fait mon deuil. Ça va
c'est
mieux.
Un deuil pour vous?
C'est un deuil pour moi, oui. Bah, pour l'instant, c'est vrai que comme je suis jeune, j'ai pas eu à vivre beaucoup de deuil, mais à part mon grand-père, mais là, c'était vraiment le gros deuil de ma vie, quoi.
Le 3 septembre 2016, on recevait Aurélie Dupont, qui est
oui.
aujourd'hui directrice de la danse, de l'école de danse de l'Opéra de Paris. Elle nous parlait de la façon dont l'opéra restait en elle, même après avoir également pris sa retraite. Et quel souvenir elle avait? Écoutez-la.
J'ai tellement de souvenirs, je pourrais dire ma loge d'étoiles, mais ça serait un peu. Il y a ça. En fait, c'est pas tellement un lieu. Je crois que c'est une odeur. J'aime l'odeur de cette maison. Il y a ça, une odeur très particulière. Peut-être que les gens qui rentrent et qui ne connaissent pas ne se rendent pas compte, mais moi qui vis ici plus que chez moi, il y a une odeur qui est très particulière que je n'oublierai pas. C'est-à-dire que dans 10 ans, 15 ans, 30 ans. Je pense que cette odeur restera et c'est une odeur qui est très... C'est l'odeur de l'Opéra Garnier. C'est peut-être ça qui me plaît le plus.
Marie-Agnès Gillot.
C'est la vérité.
Vous aussi, c'est
vraiment
une odeur
la vérité,
qui reste.
Ouais. Ouais, ouais, c'est une odeur, ouais. C'est parquet, je sais pas, c'est... Il y a une odeur très spéciale. En plus, avec Aurélie, on a vraiment été ensemble en loge pendant des années. On était vraiment cul et chemise. Donc je comprends totalement ce qu'elle raconte et c'est vraiment la vérité. voilà, je suis désolée, ça me bouleverse.
C'est émouvant. Ouais. De 9 ans à 42 ans, vous avez dansé, vous vous êtes entraîné de façon très intensive tous les jours. Est-ce que ça manque ou finalement, est-ce que vous dites quand même, malgré tout, j'ai retrouvé une forme de liberté?
Non, ça manque toujours, ça manquera toujours.
Vous continuez de vous entraîner tous les jours?
Oui, oui, oui. Déjà, vu mon handicap, moi, je peux pas relâcher trop, quoi. Parce que
vous avez des douleurs de dos, vous avez une double scoliose. Ouais.
Donc moi, je peux pas trop relâcher. Je pense que certaines danseuses étoiles arrêtent du jour au lendemain. Pour ma part, ça va pas être trop possible, en fait. Il faut que je décèle doucement, en fait. Enfin, il faut.
Sinon, vous risquez de vous créer des douleurs que vous n'aviez même pas avant.
Ouais, oui. Ouais.
Vous n'avez pas marre de danser, au fond?
Non.
C'est pas possible de s'arrêter de danser quand on a dansé toute sa vie.
J'aime que danser, moi. J'aime que danser. C'est comme ça, c'est pour toujours.
Et c'est donc trop tôt pour vous de partir à 42 ans. C'est une tradition, hein, l'âge de la retraite de l'Opéra de Paris pour les danseurs et les danseuses, c'est 42 ans.
Ouais, moi je trouve ça trop tôt. Je pense qu'on devrait faire suivant l'artiste, en fait. Parce que souvent, les garçons, c'est vrai qu'ils sont plus abîmés que nous. Mais c'est vrai que les femmes, nous, on arrive comme Aurélie. On a encore des corps super, super en forme et même... on est encore des masterpieces, quoi. Donc c'est un peu bizarre de du jour au lendemain dire bonjour, au revoir, pardon.
Ouais, c'est pour ça que vous continuez à danser. Vous donnez des cours aussi, c'est très important.
J'aime beaucoup enseigner, j'aime beaucoup transmettre. Je pense que quand on a été gâté et quand on a reçu autant, je pense qu'il faut redonner.
Vous pensez que la formation classique, c'est la meilleure, que c'est celle qui permet de tout faire ou elle restreint quand même la possibilité de faire du contemporain ensuite?
Ouais, c'est difficile de répondre à cette question-là. C'est la meilleure école, mais il faut voir quel pédagogue on a eu, quoi. En gros. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance d'avoir des grandes dames et des grands maîtres. Mais je me rends compte autour de moi que les gens n'ont pas eu cette chance, qu'ils ont été blessés souvent par cette éducation très rigide. Je le comprends, hein, je l'entends. Moi, ça n'a pas été mon cas, en fait. Moi, j'ai eu la chance d'être augmentée par des gens de qualité, quoi.
Cette question de la blessure, du travail, de la discipline, je la posais également à Aurélie Dupont. Écoutez sa réponse.
Ce qu'il ne faut pas oublier à l'école comme dans la compagnie, c'est que le travail nous amène la liberté en scène. De travailler, de faire des pointes, alors oui, on va avoir des ampoules, d'apprendre toute la technique, on va avoir mal, on va avoir des courbatures et pas des fractures. Tout ce travail-là qu'on apprend, c'est juste pour être libre. C'est pour pouvoir parler cette danse dans toutes les langues. Et être libre de s'exprimer en scène, c'est pas juste pour avoir mal. Moi, quand je travaillais énormément, mais je savais que ce travail, une fois en scène, allait m'apporter la liberté. Donc le plaisir, donc l'artistique. Et ça, c'est une réalité. C'est pas du tout, oui, il faut travailler, mais plus on travaille, plus on est libre après en scène.
Vous êtes de son avis, Marianne Gillot?
Oui, encore. Désolée.
Sur tout ce qu'elle dit.
Ouais, bah oui. Moi, vous savez, j'ai écrit « C'est dans la chute que je prends mon élan », donc j'ai pas peur de chuter. J'ai pas peur de travailler. La discipline m'a apporté la liberté parce qu'en fait, une fois que tout est tellement travaillé, du coup, en fait, ma tête, elle peut partir. Et mon corps, il enchaîne. En fait, c'est une très belle machine, le corps. Donc, du coup, il fait tout ce que je lui ai appris pendant des mois et il me conduit seul. Et moi, du coup, au-dessus, je vis. En fait, j'exprime, j'interprète.
Est-ce que vous sauriez dire quelle est la différence entre un très bon danseur de l'opéra, par exemple, et une étoile? Est-ce que c'est l'incarnation, la personnalité qui fait la différence?
Ça se voit tout de suite, les très bons danseurs. Enfin, je veux dire, les
ceux étoiles, qui vont devenir étoiles.
Ça se voit tout de suite. Je suis désolée de le dire, mais malheureusement, c'est comme ça. Il y a quelque chose en plus. Et tout le monde essaye de vous dire non, non, non. Mais non, ça se voit tout de suite. Je suis désolée.
Vous êtes de la génération d'Aurélie Dupont, mais aussi de Nicolas Loriche. Oui. Jérémy Bellingard a pris sa retraite il y a très peu de temps aussi. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait partie et de faire encore partie d'une génération particulière à l'Opéra de Paris?
Oui, je pense. Bah, déjà, on est de la génération Bessy, quoi. On a été élevés par Claude Bessy et...
Qui dirigeait l'école de danse.
Qui dirigeait l'école de danse, et c'est très important parce qu'en fait c'est une femme qui a une grande personnalité, donc du coup elle a laissé, elle était capable de gérer de grandes personnalités. Donc nous on est cette génération là. On a tous des grandes personnalités, que ça soit Nicolas, Jérémy, Aurélie, voilà. Ça dépote, comme on dit.
Allez, restez avec nous, Marie-Anne Agilot. Il est 7h30 sur France Culture. On vous retrouve bien évidemment tout de suite après les titres de l'actualité. On retrouve notre invitée, la danseuse étoile et chorégraphe Marie-Anne Agilot. Oui, et chorégraphe Marie-Anne Agilot. Vous aviez même promis à Pina Bausch de continuer à chorégraphier tous les ans. Alors vous continuez, vous tenez votre serment?
Oui, ouais, toujours.
Pourquoi c'est important?
Ben, j'avais pas encore tout de suite compris que j'avais ce double don. En fait, c'est comme un acteur et un réalisateur, c'est pas le même métier, quoi. C'est pas du tout le même métier. Et c'est vrai que après, je me suis souvenu de mon enfance et que j'étais déjà très créatrice petite, en fait, plus que interprète. C'est vrai que j'ai cette créativité en moi et puis l'art contemporain. J'ai une œuvre permanente au Palais de Tokyo. Les gens le savent pas, mais je suis pas que chorégraphe et danseuse. Tout me plaît, en fait. Et c'est vrai que cette facette de multi-artiste en France, on est un peu incomprise, mais je vois pas pourquoi ça fait peur aux gens, en fait. Un artiste, c'est un artiste, il est complet, quoi.
J'aurais dû dire artiste aujourd'hui, alors, oui. Marie-Anne Agilot, oui. En fait. Vous êtes artiste, c'est comme ça que vous vous définissez.
Moi, je me sens plus comme une artiste, oui.
On va tout recommencer. Allez,
d'accord.
Okay. On rembobine.
On rembobine.
Nous recevons l'artiste accomplie, Marie-Anne Agilot. Et puis, vous écrivez depuis l'âge de 17 ans, vous écrivez des poèmes.
Oui, et de la philosophie.
Ouais. Est-ce qu'on aura la chance de vous lire un jour? C'est destiné à être publié.
Je devais rendre mes textes en octobre dernier, c'est un peu raté.
En octobre dernier, vous voulez dire il y a un mois ou il y a un an?
Il y a un an.
Allez, il faut travailler aussi.
J'ai un peu de mal en fait. Pour moi, c'est encore quelque chose d'encore plus personnel que la danse en fait, les écrits.
Ce que vous aimez, c'est transmettre au fond.
Oui,
est-ce que vous continuez de donner des cours de danse aussi?
Je continue à enseigner aux enfants. J'aime beaucoup enseigner aux enfants. Je sais que c'est vrai qu'à mon niveau, normalement, on n'aime pas trop enseigner. On préfère les pros, comme on dit. J'aime beaucoup les enfants, en fait. Ça, c'est ma particularité. J'aime vraiment débuter.
Est-ce que vous diriez que c'est aussi différent comme métier? C'est pas le même métier d'enseigner et de danser?
Non, pas du tout. C'est pas du tout le même métier. Moi, j'ai cette compréhension du mouvement, mais je pense parce que j'ai été handicapée. Donc, du coup, en fait, moi, quand je commence un mouvement et que je veux m'y prendre, il faut que je fasse attention parce que vu que déjà je suis tordue, ça va partir quand on tient sur 3 mm carrés sur pointe. Il faut quand même faire attention, quoi, parce que je peux tomber par terre tout le temps. Donc, j'ai analysé. Je pense que j'ai suranalysé tous les mouvements de danse et tout ça. Donc, du coup, je suis capable de les redonner, de les expliquer et de les rendre simples et d'enlever la peur aussi des autres parce que moi, j'ai pas trop peur, en fait, quand je danse. Quand j'y suis, j'y vais, quoi.
Marie-Anne Agilot, est-ce que cette transmission que vous avez à cœur, hein, aussi, transmettre votre savoir-faire, vos connaissances, est-ce que c'est aussi dans une démarche de démocratisation de la danse, c'est-à-dire de faire en sorte que la danse s'ouvre à toutes et à tous, danseurs comme non-danseurs, et que finalement tout le monde puisse comprendre ce langage, puisque la danse est un langage?
La danse, pour moi, est un langage universel, puisque en fait, les langues, on est bloqué, parce qu'on se comprend pas tous. Alors que la danse, en fait, si je vous fais un geste, vous allez exactement comprendre ma sensation et exactement comprendre mon état. Donc ça, c'est sûr que c'est universel, la danse.
C'est ça qu'on peut dire à des gens qui restent hermétiques à la danse?
Oui, ouais.
Qui peuvent se laisser aller à la...
Après, j'essaye de démocratiser la danse, mais en même temps, je veux pas que ça tombe dans quelque chose de facile, mais c'est juste que c'est quelque chose de plaisir, en fait, la danse. Dès qu'on commence à travailler son corps, dès qu'on commence à travailler cette chair, c'est le plus grand, c'est un cadeau, quoi, en fait. Travailler un corps, c'est un cadeau, on est tellement fiers de soi, on est tellement tout de suite beaucoup mieux dans sa peau, parce que quand on travaille le corps, c'est très bénéfique, en fait, pour la tête. Aussi.
Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à ceux qu'on appelle les petits rats de l'opéra, qui rêvent de devenir étoiles? Faut s'accrocher?
Il faut être pur, il faut pas tricher. Il faut jamais tricher. Prenez la difficulté.
Esquiver les coups.
Non. Mais après, c'est beaucoup plus simple. Après, c'est beaucoup plus facile, vous verrez.
Et un jeune danseur ou une jeune danseuse qui vient d'intégrer le corps du ballet, de l'opéra de Paris?
Ouais, mais je vous dis la même chose.
La même chose.
J'en coach là aussi. C'est pareil, faut pas tricher. Et Moi, je leur apprends des sensations, je pense aussi, en plus. Parce qu'avec mon corset, en fait, du coup, j'ai vraiment une connaissance de mon corps qui est un peu différente des autres. Et donc, du coup, quand je lui dis passe tes omoplates sur ta cage thoracique, c'est des phrases de danseur, quoi. Vous pouvez pas comprendre. Mais...
Sauf quand on danse.
Elles comprennent.
Merci beaucoup, Marianne Gillot. On va se quitter en musique. Je pensais que vous choisiriez Dirty Dancing, la musique que vous aimez beaucoup. Ce film, c'est un film culte pour vous, de votre génération. Tous ceux qui ont votre âge comprendront de quoi nous parlons. Mais non, vous avez choisi une autre chanson, Dani, la chanson Rouge Rose.
Ouais.
Pour quelle raison ?
C'est une chanson qui m'a marquée de la dernière scène musicale. Et c'est, pour moi, c'est le passage de la jeune fille à la femme. Je trouve ça beau pour un matin.
Merci
commencer
beaucoup.
En femme.
Serait-ce le vent, serait-ce la pluie, serait-ce simplement l'ennui? Toi tu m'attends, moi je m'enfuis, tu pleureras toute la nuit. Mon amour, la nuit ne dure pas. Le soleil rouge-rose détruit tout chaque fois. Rose, à peine éclose, m'as-tu offert, souviens-toi. Elles sont fanées, comme ces années vécues entre toi et moi. Mon amour, la nuit ne dure pas.